Vous écoutez
RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Bonjour. Moi, je commence pas tant qu'il n'y a pas Géraldine.
Okay.
Faites comme vous voulez. Géraldine n'est pas là, moi, je n'ai pas d'émission.
C'est la grève de la météo, voilà. Ce matin.
J'attends.
Bon,
j'attends qu'il n'y a pas Géraldine demain.
Ça va, Mathieu?
Non, ça va, Élise?
Ouais.
Tout va bien.
Moi, j'ai peur des blancs, donc il va falloir meubler. Elle est là.
Moi, je faisais grève tant qu'il n'y avait pas Géraldine.
Ah, j'ai un petit souci de carte pour tout vous dire.
Mais il y a quand même du beau temps.
Mais ça
annule pas le
beau temps. Qui arrive.
Ouais.
Bon,
la carte
n'est
pas là, mais le beau temps, il est bien là. Bon, c'est l'essentiel. Votre santé à la une ce matin. En long, en large, en travers, on va parler de la crise à l'hôpital public à 7h40 ce matin avec Apolline de Malherbe. Mais nous, on va vous parler des déserts médicaux avec cette étude d'Octolib et de la Fondation Jean Jaurès.
Le délai médian pour voir un généraliste, c'est 3 jours. Alors, ça va plus vite pour la moitié des cas, mais c'est plus long pour l'autre moitié. 42 jours pour voir un cardiologue. La situation est si grave que près de 2/3 des Français ont même renoncé à consulter l'année dernière.
Alors, vous galérez à obtenir un rendez-vous chez le médecin. Appelez-nous ce matin. Vous êtes dans un désert médical. Alors, je sais qu'on dit ça, mais que désormais 85% du territoire est considéré en désert médical. Surtout, est-ce que la situation est telle que vous renoncez à des soins, que vous abandonnez parfois? Moi, j'aimerais aussi entendre les médecins ce matin. Dites-nous si vous recevez des patients qui auraient mieux fait de venir vous voir plus tôt. On vous attend au 3216 et on lit vos messages sur le WhatsApp RMC, le 0612 424 424.
Et puis cette question ce matin, comment en finir avec le plastique, notre overdose de plastique, notre dépendance au plastique? Emmanuel Macron a relancé l'idée de la consigne hier pour améliorer le recyclage. Alors c'est un vieux débat qui revient régulièrement. Si on installait des bacs dans les supermarchés, est-ce que vous jouiriez?
Ouais, pardon.
Ouais, c'est dur ça à dire.
Tu sais que quand je fais un premier teasing à 4h30, j'ai bugué sur le même mot.
Ah bon, bah ça va, alors on est les mêmes.
Un petit café,
bon,
c'est
est-ce que vous allez jouer le jeu, voilà, on va le dire comme ça, en échange de quelques centimes, c'est tout le principe de la consigne. Il y a des expérimentations et des systèmes qui existent déjà.
D'ailleurs, on va parler de la consigne à la base. C'est ce que c'est aussi, c'est quand même qu'on paye à l'origine cette consigne. Donc ça va augmenter les prix de certains liquides en bouteilles plastiques. Est-ce que c'est pas aussi une manière de continuer le plastique alors qu'il faudra en sortir? Comment est-ce que vous faites pour le réduire à la maison? Ces questions-là, on vous les pose au 32-16 ce matin.
L'affaire Patrick Bruel toujours. Est-ce que l'étau se resserre autour du chanteur et comédien alors que 12 plaintes sont déposées, qu'une trentaine de témoignages sont apparus? Les fans se posent la question. Alors, est-ce que vous allez le voir au théâtre ou pas? Est-ce que vous allez le voir en concert? Qu'est-ce que vous ferez? Vous avez peut-être déjà des places d'ailleurs. Comment on fait?
Il y a aussi, je sais qu'il y en a moins qui nous écoutent mécaniquement que des spectateurs, mais aussi les producteurs de spectacles qui sont face à un dilemme. On apprend qu'il y a des annulations au Québec. Quand c'est votre tête d'affiche d'un festival que vous avez investi, est-ce qu'il faut annuler les représentations de Patrick Bruel? On était hier à la sortie du théâtre Édouard VII à Paris, où Bruel se produit en ce moment. Vous l'entendrez dans le journal de 5h dans un instant, et puis c'est dans le choix de la rédaction juste après le journal. On en parle avec vous au 32-16.
On continue de jouer cette semaine et on continue surtout de vous gâter à moins d'un mois du début de la Coupe du Monde 2026. Vous pouvez devenir sélectionneur sur RMC avec notre jeu, la liste des 26, et plein de cadeaux pour profiter de cette Coupe du Monde comme il faut. Vidéo projecteur, écran, barre de son, le maillot des Bleus, le baby-foot aussi. Tout ça, ça se gagne jusqu'au 29 mai sur RMC. Il y aura un top inscription au cours du morning. Et vous aurez 5 minutes pour envoyer liste au 732-16, liste au 732-16.
Et puis comme tous les matins, il y a le mot caché. Vous le savez, à n'importe quel moment du morning, on prononce un mot. Comme ça, vous vous dites, c'est bizarre ce mot, ça sort de l'ordinaire. Ben, vous envoyez mot par SMS au 732-16. Et là, vous pourrez gagner la station météo Lacrosse Technologies, le leader français des données météo connectées. En ce moment, si vous en avez une à la maison, on va vous dire que ça va vers le mieux, non?
Va vers même des records de température, Géraldine?
Ah, c'est possible pour la semaine prochaine, effectivement, parce que non seulement il va faire beau, mais ça va durer, il va faire de plus en plus chaud. On va même se plaindre parce que là, on va arriver dans le trop chaud. Ah oui. Mais c'est pas pour tout de suite. Tout de suite, aujourd'hui, c'est une journée de transition. Donc, on a quand même encore pas mal de nuages ce matin. Un peu de pluie en allant vers les frontières du Nord, en allant vers la Manche. Et puis, pour cet après-midi, déjà, on a les éclaircies qui vont vraiment bien gagner du terrain sur une large moitié sud. Des éclaircies aussi entre la Bretagne et la Franche-Comté. Au nord de la Seine, ça restera plus gris avec encore un petit risque d'averse. Le tout avec des températures qui montent. Et ça y est, on est dans les normales de saison puisque cet après-midi, on aura 18 à Lille, on aura 20 à Paris, 23 à Lyon, il fera même 24 à Bordeaux, à Toulouse, 27 à Marseille et Perpignan. Et donc, le beau, le chaud, c'est vraiment à partir de demain où là, ça y est, le soleil s'installe. Et donc, ça va durer puisque même, a priori, pour ce week-end, on craignait des orages. A priori, la goutte froide est plutôt en train de se déplacer un petit peu plus loin. Donc,
quand vous en parliez.
Oui, mais donc on devrait avoir un très très beau week-end aussi.
On prend.
Il est presque 5h sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et à 5h, c'est l'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une des concerts de Patrick Bruel, annulés au Canada.
Où les organisateurs l'expliquent par l'affaire en cours et les accusations de violences sexuelles dont fait l'objet le chanteur qui joue en ce moment au théâtre à Paris. Et vous allez voir qu'RMC était à la représentation qui se déroulait hier soir. À un an de la présidentielle, Édouard Philippe, soupçonné de détournement de fonds publics, un juge d'instruction va enquêter sur le maire du Havre. On va tout vous expliquer et on sera à Londres également, où Arsenal est devenu champion d'Angleterre de football dans la soirée. 22 ans que les Gunners attendaient ça.
Ah, c'est donc au Canada que 3 concerts de Patrick Bruel sont annulés.
Ils étaient prévus en fin d'année dans la ville de Québec, mais les organisateurs les annulent, je cite, un compte tenu du contexte et de l'impossibilité d'en assurer la promotion. Alors vous allez l'entendre toute la matinée sur RMC, c'est l'embarras chez nous en France où le chanteur doit entamer le mois prochain une tournée d'une cinquantaine de dates. Lui qui est accusé de violences sexuelles, qu'il conteste par une trentaine de femmes et qui se produit donc en ce moment au théâtre Édouard VII à Paris. Théâtre qui affiche complet, même si évidemment l'affaire est dans toutes les têtes, nous dit Amélie Courtet qui était hier soir pour RMC.
À la fin de la pièce, Patrick Bruel est applaudi, ovationné par une salle comble.
Je crois qu'il était très touché, il était très ému.
On est vraiment venu voir l'acteur ce soir et on a passé un bon moment.
Les plaintes et les témoignages de femmes contre le comédien s'accumulent, mais ça n'a pas dissuadé Béatrice de passer la porte du théâtre.
Pour l'instant, j'ai pas de raison de ne pas assister à la pièce tant qu'il n'a pas été entendu, tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice.
Elle ne comprend d'ailleurs pas l'annulation de 3 de ses concerts au Québec.
Bah, je trouve que c'est un petit peu prématuré, c'est à la justice de trancher.
Beaucoup, comme elle, devant le théâtre, font valoir la présomption d'innocence. Suzette suit l'artiste depuis longtemps.
Je kiffe Patrick Bruel. J'ai pas réfléchi, j'avais mon billet et je comptais les jours et j'avais qu'une hâte, c'était d'être là. Je suis pas atteinte en fait, j'arrive pas à dire qu'il ait pu faire ça.
Plus loin, Thierry laisse lui deviner une petite gêne, le sourire crispé.
On a hésité à venir quand même.
Et vous êtes là ?
Alors on est là parce qu'on a pris les places en décembre, donc avant un petit peu toutes ces affaires et voilà.
Il se dit touché par ces accusations et concède qu'il n'aurait probablement pas acheté de billets s'il en avait eu connaissance à l'époque.
Vous allez nous dire au 32-16, déjà si vous avez des places, que ce soit pour le théâtre ou pour les concerts, vous en faites quoi ? Est-ce que vous y allez quoi qu'il arrive ? Vous feriez quoi à la place de ceux qui, à l'origine, voulaient simplement aller au spectacle, hein, si j'ose dire ? Le choix de la rédaction juste après ce journal, on continue d'en parler avec vous au 32-16.
On en vient à présent à ce qui n'est pas un tournant, mais à minima un caillou dans la chaussure d'Édouard Philippe à un an de l'élection présidentielle.
Le maire du Havre, soupçonné donc de détournement de fonds publics et de favoritisme. Thomas Becker du service politique à RMC, vous allez tout nous expliquer. On a appris dans la soirée qu'un juge d'instruction allait enquêter sur des contrats signés par Édouard Philippe.
Oui, tout part d'un signalement effectué par une haut fonctionnaire de la communauté urbaine du Havre. En 2023, elle alerte les autorités judiciaires à propos d'un contrat qu'elle juge suspect entre la ville et une association de la commune censée gérer la cité numérique du Havre. Or, selon la plainte déposée, le contrat aurait profité à la présidente de cette association, qui est également conseillère communautaire et adjointe du maire du Havre, une proche donc d'Édouard Philippe. La lanceuse d'alerte accuse le candidat à la présidentielle d'avoir favorisé son adjointe avec un contrat de gestion affiché à plus de 2 millions d'euros. Ce signalement avait débouché en 2024 sur l'ouverture d'une enquête et mené à des perquisitions, notamment dans les bureaux d'Édouard Philippe. Aujourd'hui, c'est donc un juge d'instruction qui doit se pencher sur tous ces éléments et éclairer plusieurs zones d'ombre pour savoir si le contrat en question a bien été attribué dans les règles.
Tiens, ça c'est l'information de la nuit. Donald Trump participera bien au sommet du G7 prévu mi-juin à Évian. La Maison-Blanche l'a confirmé là il y a quelques heures. Il y avait un doute important, mais tout a été fait, absolument tout, pour qu'il soit là. Les dates de ce G7 ont même été décalées pour qu'il puisse fêter ses 80 ans à la Maison-Blanche, juste avant Maison-Blanche, où il a prévu un combat de MMA.
Après, chacun organise son anniversaire comme il veut. Hein. Moi, il y a des laser games pour les enfants, lui, il fait du MMA.
Et voilà, ce qui est dingue, c'est que le G7 est décalé d'une journée.
Décale le G7. Pour ça. C'est pas pratique. Moi, j'aurais décalé la finale de la Ligue des Champions pour l'anniversaire de mon fils. On peut faire quelque chose?
Non. Ouais, non. Tout le monde s'appelle patron.
Bon, allez, en attendant, ça, c'est un autre débat qu'on a ce matin avec vous au 32-16. En France, on relance, Emmanuel Macron relance l'idée d'une consigne pour les bouteilles en plastique.
Oui, alors le président, précisément, demande au gouvernement de lancer une concertation sur le sujet. Autrement dit, c'est pas fait, hein, avec élus, parlementaires, industriels, pour améliorer le recyclage des produits en installant des bacs dans les supermarchés afin de récupérer les bouteilles plastiques usagées en échange de quelques centimes. Mais alors, Romain Cluzel, au service politique à RMC, vous nous dites que c'est pas gagné, hein.
À commencer par les collectivités locales qui s'opposent à cette consigne sur les bouteilles en plastique. Ce sont elles qui gèrent la collecte et la valorisation du plastique et cela représente une manne financière. Et puis Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette et vice-président de l'AMF, alerte aussi sur les conséquences d'une consigne sur notre pouvoir d'achat.
Vous imaginez les industriels qui vont augmenter de 20 centimes d'euros le prix des bouteilles et qui vont inciter nos concitoyens à leur rapporter les bouteilles pour leur redonner ces 20 centimes. D'abord, on sait très bien qu'il y a 20% qui ne sont pas rapportés. On n'arrive pas à comprendre, en fait, pourquoi cette fixation sur la consigne.
Même opposition pour les associations environnementales. La consigne, cela ne résout pas le problème à la racine. Il faut surtout utiliser moins de plastique, estime Camille Wolf, chargée de campagne pour l'association No Plastic in My Sea.
C'est pas la priorité. Et la manière la plus efficace de réduire la consommation de plastique, c'est de se passer de plastique là où on n'en a pas besoin. J'aimerais qu'on fasse la démonstration du même zèle sur ces obligations-là qui sont beaucoup plus impactantes sur la quantité de plastique qu'on utilise.
Ces consignes plastiques seront obligatoires en Europe en 2029, se défend le gouvernement. Alors, il faut s'y préparer.
Alors, est-ce que c'est ça la solution, la consigne pour lutter contre notre dépendance au plastique? Venez nous le dire ce matin au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424.
Alors, dans ce contexte, une méga usine de panneaux photovoltaïques était censée voir le jour dans la région de Marseille, précisément à Fos-sur-Mer. Le projet avait été lancé il y a 4 ans, 1,5 milliard d'euros d'investissement, 3000 emplois à la clé, des emplois durables, c'est ce qui était promis. Sauf que, la méga-usine ne verra pas le jour. Elle n'ouvrira pas. Victor Joannin, la société française qui avait lancé le projet, vient d'être placée en liquidation judiciaire.
En cause, la concurrence écrasante des panneaux solaires chinois et l'incapacité de l'Europe à protéger sa filière naissante. Par exemple, si le Made in Europe est dorénavant obligatoire pour accéder au marché public, les panneaux solaires fabriqués dans les pays qui ont un accord commercial, comme le Vietnam, restent autorisés. Le manque de stabilité politique a joué aussi. 5 ministres de l'énergie différents en 4 ans et l'absence de soutien fort du gouvernement persifle à un bon connaisseur du dossier. Autant d'incertitudes qui auront fini par dissuader les investisseurs. Amertume du fondateur du projet qui dit avoir tout tenté jusqu'au bout il y a à peine plus d'un an, encore plein d'espoir, il obtenait le permis de construire. La mise en service de cette méga usine était prévue dès l'année prochaine, mais les plans resteront finalement dans les cartons.
Il est 5h07 sur RMC, des scènes de liesse hier soir à Londres, en Angleterre.
Pour célébrer le titre d'Arsenal qui a remporté le championnat anglais en profitant du match nul de son rival Manchester City. C'était pas arrivé un titre pour Arsenal depuis 2004 et l'époque des Invincibles avec Thierry Henry qui jouait à ce moment-là à Arsenal. Bref, ça fait une éternité avant de disputer la finale de la Ligue des Champions dans 10 jours. Écoutez la joie hier soir donc à Londres avec notre envoyé spécial Clément Brossard.
Il est moins de 22h hier soir quand le Tollington Arms, le pub des supporters d'Arsenal, explose. Les Gunners mettent fin à 22 ans de disette.
Je pourrais pas être plus heureux. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. C'est une folie de vivre ça avec mes frères, mes amis. Quelle nuit. Allez Arsenal.
Trois fois de suite deuxième du championnat, les fans en faisaient leur priorité.
Ça faisait trop longtemps. La Ligue des Champions sera fantastique, mais on avait besoin de remporter le championnat pour remettre le club dans la bonne direction.
Sur le parvis de l'Emirates Stadium, où des milliers de supporters se sont rassemblés jusqu'à tard dans la nuit, la confiance règne avant la finale de Ligue des Champions.
Ce titre de champion d'Angleterre est un poil plus important, mais là j'ai tellement hâte de vivre la finale de Ligue des Champions. On veut tout remporter, ce titre n'est que le début.
Eux qui n'ont jamais remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes sont prêts à vivre un moment d'histoire en réalisant le doublé. Le Paris Saint-Germain est prévenu.
Bon, alors, je suis pas sûr que les supporters du PSG soient d'accord pour ce doublé. Tiens, je vous signale qu'il y aura la première finale européenne de la saison ce soir. C'est celle de la Ligue Europa entre Fribourg et Aston Villa avec Lucas Digne, notamment chez les Anglais.
Merci beaucoup, Quentin Vinet. Comme ça, c'est complet. On verra avec Virginie Fulpin dans la causerie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, tiens, pour le Paris Saint-Germain qu'Arsenal remporte le titre en Angleterre. On verra s'il y a une réponse à cette question d'ailleurs. Merci Quentin. C'est vous à présent au 32-16 avec Aurélien à 5h08 sur RMC. Bonjour Aurélien.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Aurélien, vous habitez en un petit village en Auvergne et vous avez bien du mal à vous soigner.
Oui, c'est exactement ça. On a même passé le cap du mal à se soigner. Là. On est en plein milieu du désert. Pourtant, on n'est pas loin de Clermont. Ouais. Là, je suis à 30 minutes. Mais c'est tout est compliqué. Quoi. Moi, je vois mon médecin traitant qui est au bout de ma rue. Alors, il n'est pas loin. Je mets 3 minutes à pied. Par contre, un rendez-vous, c'est 15 jours.
Ouais, 3 minutes à pied, mais 15 jours d'attente pour le rendez-vous.
Exactement ça. C'est 15 jours d'attente. Et comme je disais à Clément, où j'ai laissé sur le message sur le WhatsApp,
ouais,
ma femme a voulu prendre un rendez-vous. Du coup, chez un dermatologue où j'allais assez fréquemment. Et le prochain rendez-vous est en mars 2028.
Pour le dermato ?
2028.
2028.
Ouais. Ouais, presque 2 ans, ouais.
Bah, c'est ça, quand vous disiez, il y a 2-3 jours d'attente pour le médecin traitant et quelques mois ou quelques semaines pour le.
Oui, c'était 42 jours pour le cardiologue, mais chez vous, c'est 2 ans pour le dermato.
Voilà, pour un dermato, quoi. Donc voilà le problème.
Vous utilisez des applications, Aurélien, pour essayer de mettre en concurrence ?
Doctolib, nous on utilise Doctolib et je vois vers chez moi, quand on tape Auvergne dermatologue par exemple, Doctolib, tous les dermatologues ne sont pas sur Doctolib. Mmh. Donc on ne peut pas prendre un rendez-vous via la plateforme, alors pourquoi, je ne sais pas.
Mais alors Aurélien, de façon concrète, vous avez un souci de santé, il se passe quoi? Vous allez à l'hôpital, vous faites des kilomètres, comment ça se passe chez vous?
Déjà le médecin traitant, ah oui, c'est ou une maison de garde, on appelle le SAMU une maison de garde. Et dans ce cas, moi, la maison de garde, elle est à 30-40 minutes de chez moi.
Quand même.
Sinon, je vais directement à l'hôpital, qui est à Clermont, et qui est à 30-40 minutes de chez moi. En sachant que, du coup, à l'hôpital, on va attendre. La maison de garde, vu que le SAMU prévient, si on a de la chance, il n'y a personne. Sinon, on attend.
Non, mais c'est une illustration très concrète de ce qu'on disait, parce que moi, je veux bien, hein, mais parfois, quand on vous dit qu'il y a un grain de beauté à surveiller, par exemple, le dermatologue, faut pas attendre 2 ans, normalement, pour aller le voir. Moi, j'aimerais entendre des médecins aussi ce matin. Est-ce que vous recevez des patients qui, où vous vous dites, il fallait venir me voir plus tôt? J'aurais aimé que vous veniez me voir un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a du retard qui est pris dans le diagnostic, dans le traitement? Merci Aurélien de votre appel, en tout cas. Au 32-16, on parle de ces déserts médicaux. 3 jours, hein, c'est le délai médian pour avoir un généraliste. La moitié, c'est moins, la moitié, c'est plus. 42 jours pour le cardiologue, et là, on est... Je ne sais pas si on aura mieux ce matin. 2 ans pour voir un dermato. Merci Aurélien, merci beaucoup de votre appel au 32-16.
Il est 5h11 et c'est l'heure de la solution conso avec Géraldine Demory, sur quoi on économise ce matin.
Alors, je vous propose de gagner des sous grâce aux vaches. On va acheter une vache ensemble si vous voulez.
La normande que je suis est ravie.
Bon, avant ça, il y aura le choix de la rédaction. Bonjour Inès Zegloul.
Bonjour.
Alors, on l'a appris hier soir, des concerts de Patrick Bruel ont été annulés au Québec.
Ouais, mais en France, c'est l'embarras, surtout chez les fans et les organisateurs de spectacles.
À suivre dans un instant, c'est le choix de la rédaction. À tout de suite.
Jusqu'à 7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h13 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, le choix de la rédaction.
Une trentaine de témoignages, au moins 12 plaintes en justice contre Patrick Bruel. 5 pour des faits de viol, dont celle de l'animatrice Flavie Flamand. Le chanteur nie les accusations, mais premières annulations de concerts annoncées au Québec.
Bonjour Inès Zegloul.
Bonjour.
C'est le choix de la rédaction ce matin, ces concerts annulés, ces fans qui commencent à se détourner de leur artiste fétiche, vous les avez rencontrés?
Et des fans qui sont divisés pour l'heure. Certains disent toujours soutenir le chanteur Patrick Bruel qui continue de remplir les salles. Ça, on a pu le constater hier soir au Théâtre Édouard VII à Paris, où il continue de se produire en ce moment même.
Pour l'instant, j'ai pas de raison de ne pas assister à la pièce tant qu'il n'a pas été entendu, tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice.
Je kiffe Patrick Bruel. J'ai pas réfléchi, j'avais mon billet et je comptais les jours. J'avais qu'une hâte, c'était d'être là.
Et à l'opposé, quand on va sur les pages de fans, sur les réseaux sociaux, on trouve aussi des internautes qui tentent de revendre leur place de spectacle. Je ne peux plus le regarder comme avant, commente l'une. Hors de question d'aller voir ce porc, écrit l'autre. Dominique, elle, nous parle de boycott. La niçoise se décrit elle-même comme une admiratrice de la première heure. Elle a même des dédicaces de Patrick Bruel encadrées chez elle.
Et moi, je suis tombée, dans la Bruelle Mania. J'ai raté aucune tournée, aucun concert. Il y a même des concerts que j'ai vus deux ou trois fois. J'en ai vu des dizaines, quoi. Je suis même pas capable de compter.
Et là, vous aviez prévu de retourner le voir?
Cet été, j'avais donc mes places pour aller voir, à Saint-Laurent-du-Var. Et ensuite, au Nikaya, en octobre. Je vais pas y aller, C'est pas possible, en fait.
Qu'est-ce qui est pas possible?
D'aller l'applaudir. C'est pas possible de faire comme si de rien n'était. Parce que moi, toutes ces femmes, je les crois, Tous nos souvenirs, en fait, qu'aujourd'hui, on a presque pas honte, mais pas loin, quoi, de se dire on a idolâtré ce gars. Moi, je suis dévastée de ce qui se passe là. C'est très, très difficile. C'est tellement dommage.
Et dommage, c'est aussi ce que soufflent certains organisateurs de concerts. Cet été, une dizaine de festivals s'étaient offerts les services de Patrick Bruel en Belgique, en Suisse, en France, programmés depuis des mois. Bruel devait être une tête d'affiche. Argument principal de promotion, c'est désormais une malédiction, me disent certains.
Mais alors, est-ce qu'ils ont prévu d'annuler sa venue, Inès?
Eh bien, trois concerts annulés au Québec, ça on l'a dit, on l'a appris hier soir. Mais en France, eh bien, les organisateurs sont hésitants. On est pieds et poings liés. Voilà ce que me répond Sophie, elle est responsable du festival Les Alpagas Bleus à Saverne.
Le plus simple, ce serait de déprogrammer. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui il existait une clause dans les contrats qui dit que dans ce genre de situation, on peut, oui, humainement, probablement qu'on l'aurait fait. Aujourd'hui, si on déprogramme, il faudra payer l'artiste. Et qu'en plus, il faut rembourser tous les gens qui voudront ne plus venir financièrement. Oui, c'est la remise en question de l'existence du festival même, quoi.
Alors d'autres ont retourné le problème dans tous les sens, ils tentent de trouver une faille juridique, on ne veut pas de lui sur notre scène, me disent-ils, seule solution, dit Sophie.
Qu'il prenne la parole et qu'il prenne ses responsabilités, qu'il lui annule, je pense que ce sera plus simple pour tous les festivals, évidemment, oui, financièrement, oui, c'est sûr.
À Nice, c'est un sponsor, un centre commercial local, partenaire du Beach Sport Festival qui s'est retiré de l'événement.
Les sponsors, ça peut aussi changer la donne dans cette équation. Le chanteur qui entame ensuite donc sa tournée des 35 ans de l'album À leur regard, ça sera dès le mois de juin, c'est demain. Il reste donc programmé dans plus d'une quarantaine de villes jusqu'à la fin de l'année.
Et pour l'instant, parmi les maires que j'ai pu joindre au téléphone, aucun ne s'oppose frontalement à la venue du chanteur à Dijon. À Laval, par exemple, on prône la liberté de programmation des salles de concert, laissons faire la justice, présomption d'innocence, me répond-on à Vaison-la-Romaine ou encore à Salon de Provence, qui eux renvoient la balle aux producteurs de spectacles, qui eux avouent n'avoir jamais pensé à annuler, pas une seule seconde. Alors les collectifs se mobilisent, Salon Féministe par exemple, dont Mathilde est membre.
On ne veut pas divulguer les détails, mais on planifie des choses, et puis dès vraiment c'est de perturber, de dire qu'on est là, continuer avec cette programmation, c'est indécent.
Une pétition a été lancée en ligne contre la tournée de Patrick Bruel. Et aujourd'hui, près de 24 000 personnes l'ont signée.
Merci beaucoup Inès Zegloul. Vous réagissez au 32-16 ce matin. Vous prenez la parole. Déjà, vous avez peut-être des places pour le théâtre ou les festivals, les spectacles de la tournée, les concerts de la tournée. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous essayez de les revendre? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous auriez des places à la place des fans de Patrick Bruel? Est-ce qu'il faut annuler? C'est aussi la question qui se posait aux producteurs de spectacles que vous avez interrogés. Vous nous le dites au 32-16. Ça fait réagir jusqu'au sommet de l'État. On a la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui était interrogée sur le sujet. Elle a dit qu'elle n'irait pas voir, elle, à titre personnel, un spectacle de l'artiste, mais qu'il a tout à fait le droit de se produire. C'est bon, en même temps, quoi. Ça marche aussi avec toutes les réponses. 5h18 sur RMC, RMC Story.
Et c'est l'heure des choix de la bande avec des infos qu'on a dénichées dans la presse. Bonjour Arthur Asquin.
Bonjour Élise Dangean.
Je vous salue, mais je garde le bâton de parole si vous m'y autorisez.
Le bâton de parole, c'est trop mignon.
Oui, ça se dit, non?
Oui, ça se dit.
Il y a le coussin de la parole aussi.
Ça se dit, oui, en grande section. Oui.
j'ai une info pour vous, très concernante surtout pour Mathieu et Arthur. La Clean Girl est morte, vive la Messy Girl. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas, c'est l'image de la fille parfaite, adepte de smoothie et de look épuré qu'on retrouve beaucoup depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Mais elle est gentiment en train de s'éteindre. Alors on pourrait y voir une bonne nouvelle, celle de la fin d'un énième diktat pour les femmes et notamment les plus jeunes. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car si la pop culture replonge dans la nostalgie des années 90, elle a ramené avec elle son accessoire le plus toxique, à savoir la cigarette. C'est à lire dans le journal Le Parisien aujourd'hui, avec pour point de départ par cette photo postée au Met Gala par l'influenceuse Lena Situation, star des ados. On la voit clope au bec avec la chanteuse Charlie XCX. Une glamourisation du tabac qu'on retrouve aussi sur grand écran. Dans L'Amour Ouf, par exemple, de Gilles Lelouch, on compte plus de 11 minutes de tabagisme recensées par l'association Contrefeu.
Le film dure 8 heures, non? Enfin, je ne me rappelle plus.
Non. Il n'est même pas si long, ce film.
C'est le ressort
c'est le ressenti peut-être.
11 minutes, c'est l'équivalent de 22 spots publicitaires selon l'association Contrefeu. On a la Ligue contre le cancer qui suspecte même l'industrie du tabac de contourner la loi Evin pour renormaliser la cigarette auprès des jeunes. On rappelle qu'en France, le tabac tue encore 75 000 personnes chaque année.
Oui, tu disais vive la Messy Girl qui vivra moins longtemps finalement aussi.
Bah, vive la Messy Girl, si elle pouvait écraser sa cigarette, ce serait...
Moi j'ai aussi de la musique.
Ah,
bah oui, avec un vieux Charles Aznavour là. Je suis quelque chose tombé cette nuit. Les orgies. Vous vous rappelez de ces paroles, les jours du bac, le cognac, voilà. Mais encore faut-il avoir l'âge pour ça.
Oui.
Parce que figurez-vous que le plus jeune candidat au baccalauréat aura moins de 10 ans cette année. L'an dernier, le plus jeune avait 8 ans. Et ça agace le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, qui aimerait imposer un âge plancher pour pouvoir candidater au baccalauréat. Il demande à ses services d'étudier un seuil minimal, éviter que des enfants très précoces soient préparés intensivement à un examen qui ne leur est pas destiné, qui est prévu à l'entrée dans le supérieur. Il estime, Édouard Geffray, qu'à 8, 9 ou 10 ans, passer le bac n'est pas forcément souhaitable. On va souhaiter une bonne chance à tous ceux qui le passent, hein, parce que les épreuves du bac pro commencent aujourd'hui.
Vous comprenez au candidat qui a moins de 10
ans. Est-ce qu'il faut instaurer un âge minimal pour passer le bac? Oui.
Évidemment.
Ah bon, évidemment.
Mais qu'est-ce qu'on en fait?
Parce que ton gamin de 10 ans là, qui est capable de passer le bac, il va aller apprendre l'alphabet avec les autres.
Il va courir dehors.
Non, il va pas courir dehors. Il va s'asseoir en classe et il va faire les tables de multiplication qu'il maîtrise depuis ses 4 ans.
Mais arrêtons de voler l'enfance aux enfants.
Non, mais arrêtons. 19 ans, j'étais dans les clous. C'est bon. Nickel.
Non, mais moi je pense que c'est pas la place d'un gamin à 8 ans de passer le bac. Mais tu fais quoi du gamin de 8 ans qui a le niveau du bac? Tu vas le laisser à végéter avec les autres enfants?
Tu lui fais autre chose. Tu lui fais faire autre chose.
Mais ça n'existe pas l'autre chose dans l'éducation nationale. Tu fais ce qu'on te dit de faire.
Dehors de l'éducation nationale, la vraie vie, quoi. Je sais pas.
La vraie vie à 8 ans. Bon.
Qui passe son permis, quoi.
Il est capable de passer une vraie bac à 8 ans.
Il va piloter des avions et tout.
Il a qu'à jouer aux boules.
Il a qu'à jouer aux boules. Et qui a volé les boules, Élise? En Dordogne, il y a un couple qui vient de résoudre un mystère qui durait depuis plusieurs semaines. Véronique et Damien de Saint-Vincent de Cognac avaient installé un boulodrome dans leur jardin. Mais leurs boules de pétanque disparaissaient une par une. Et c'était des belles boules. Hein. 800 euros la série. Naturellement, ils ont pensé à un voisin un peu jaloux de leur boule. Alors, ils ont installé une caméra de surveillance. Et là, surprise, les images ont révélé l'identité du voleur. Un renard, oui. Un renard bouliste. 19 boules dérobées. Des boules de compétition offertes à l'occasion de la Saint-Valentin. Et Véronique, elle lâche pas l'affaire. Elle a glissé un traceur GPS sur la dernière boule. En espérant que le renard revienne la voler et les mène au butin. Et comme le dit très justement son compagnon Damien, on a un renard qui préfère les boules aux poules. Voilà.
Je voudrais qu'on invite ces gens. Ça a l'air d'être des poètes, là. Le traceur GPS sur la boule de pétanque.
5h50,
En même temps, à 800 euros le set,
Oui, déjà.
Ah ouais.
C'était déjà la première question.
On les laisse dehors comme ça. Ça n'a aucun sens.
Oui.
Ah, j'ai des boules à 800 euros, je les rentre à l'intérieur.
Il est 5h22. Vous êtes sur RMC. RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. C'est l'heure de rappeler les grands titres de l'actualité aujourd'hui, Élise.
À un an de la présidentielle, Édouard Philippe soupçonné de détournement de fonds publics. Un juge d'instruction va enquêter sur le maire du Havre. On en parlait. Une première série d'annulations pour Patrick Bruel, accusé de violences sexuelles par une trentaine de femmes. Le théâtre Capitole à Québec a fait le choix d'annuler les 3 concerts du chanteur prévus en décembre prochain. Et puis c'est l'information de la nuit. Donald Trump participera bien au sommet du G7 le mois prochain à Évian. La Maison Blanche l'a confirmé. Tout a été fait pour qu'il soit là. Les dates avaient même été décalées pour qu'il puisse fêter ses 80 ans à la Maison Blanche.
Il est 5h23.
RMC, la solution conso.
Et tous les matins, on est avec Géraldine Demory et ses astuces pour faire des économies. Alors, ce matin, moi, je découvre. je crois que je suis pas seul. Mais peut-être que certains d'entre vous connaissent. Là, tu nous proposes d'acheter une vache.
Exactement, et c'est très sérieux. Alors, c'est pas pour mettre dans son jardin, je vous rassure. L'idée, ça va être d'acheter une vache pour ensuite la louer à un éleveur. Alors, aujourd'hui, si vous voulez acheter une vache, il faut compter 2 316 €. Et l'éleveur,
c'est précis, hein.
C'est très précis. C'est le cours de la vache. L'éleveur, lui, va payer une vingtaine d'euros par mois et, en quelque sorte, il va avoir la vache en leasing. Je vous rassure.
Pardonnez-moi, il y a Arthur Astien qui commence à sentir son appli de placement financier. Donc attendez, la vache en leasing, je vous ai coupé.
Et oui, alors c'est pas la peine de s'y connaître en bovin, il n'y a pas de problème, c'est une plateforme qui va s'occuper de tout. Il y a par exemple My Marguerite qui propose ce type d'investissement. Arthur a raison de sortir sa calculette parce que ça rapporte quand même pas mal. Rendement attendu, 5,5% sur les 10 prochaines années.
Ou sur 10 ans.
Mais non, par an.
Par an. Ah oui, c'est pas mal.
Alors attention, il y a pas de...
qu'il a fait un an
d'école de commerce.
Il y a pas de garantie de résultat hein, quand même, pour freiner quand même votre enthousiasme. Je vous rassure aussi, la vache certes vieillit, mais votre investissement lui ne vieillit pas avec la vache. Vous avez aussi Bodycash qui est sur le même principe, qui va très bientôt être lancé. Très sérieusement, le but c'est quand même d'aider un éleveur qui va pas avoir à s'endetter comme ça pour avoir un cheptel. Et de votre côté, vous faites fructifier votre argent,
mal,
donnant du sens à votre épargne.
Il n'y a pas beaucoup de livrets qu'on peut manger à la fin.
On n'est plus sur les vaches laitières. Mais
C'est pas le seul produit d'épargne qui peut être surprenant, Géraldine.
On parle des vaches, mais plus largement, ça rentre dans l'épargne agricole. Donc vous avez aussi des investissements pour une surface agricole, pour une vigne, et ça permet de soutenir l'agriculture. Vous pouvez démarrer avec une centaine d'euros, et puis pour tous ces types d'investissements, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une fiscalité qui est particulièrement intéressante, puisque les bénéfices relèvent du régime agricole. Donc vous êtes peut-être en plein dans votre déclaration de revenus, ça peut être très intéressant.
Oui, alors c'est classe, mais c'est quand même un peu risqué tous ces investissements.
Alors comme tous les investissements, là on parle d'investissement un petit peu insolite, ça peut rapporter, mais de toute façon ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'en matière d'investissement, la règle d'or c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc c'est vraiment se diversifier.
Faut acheter des œufs aussi.
Faut se diversifier un maximum. Cool. Placer l'argent qu'on est prêt à perdre, en tout cas qui n'est pas vital évidemment pour le foyer, sinon il faut rester sur des placements sans risque. Et dites-vous que même si vous ne pouvez placer qu'un tout petit peu, qu'épargner un tout petit peu, ça reste toujours très important de le faire.
Mais non, mais franchement, vous avez vous-même, vous avez mis 2316 euros dans une vache. Vous êtes agriculteur. Grâce à ce genre de système, ça vous permet d'avoir un troupeau. Non, mais je sais pas. Racontez-nous, parce qu'on sourit, c'est amusant. J'ai tout misé sur la vache. Pardon. Il est 5h26. Vous êtes sur RMC.
La vache à l'aise.
La solution conso.
La conso sur RMC avec Banque Populaire. Engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire. La réussite est en vous.
Le podcast de la solution conso, c'est tout ce que je voulais dire.
Allez, il est 5h26 et dans un instant, c'est le meilleur d'Arnaud Demant chez vous au 32-16. A tout de suite.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Je vous rappelle d'abord qu'on joue ce matin au mot caché, un mot qui sort de l'ordinaire. Vous l'avez identifié, vous envoyez mot au 7-32-16 pour gagner votre station météo connectée, la Cross Technologie.
Et il revient tout à l'heure en direct dans Apolline Matin, mais on se met tout de suite dans l'ambiance, c'est le meilleur d'Arnaud Demanche.
Et dis donc, Jamy, pourquoi on a autant de candidats, Jamy? J'ai jamais vu ça, Jamy, plus de 30, Jamy.
Eh bien, Fred, c'est l'effet Macron. Depuis qu'un homme sans parti, sans expérience et sans soutien est devenu chef de l'État, n'importe qui se dit « je peux le faire » et le nombre de candidatures... remonte et l'envie de voter pour un de ces tocards redescend. Alors parmi les candidats putatifs, c'est pas un gros mot, non, ça veut dire supposé. Gabriel Attal qui veut organiser un grand meeting le 30 mai, c'est-à-dire le même jour que la finale de Ligue des Champions du PSG. Oh bravo champion, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir regarder, Jamy. Est-ce qu'on va regarder Gabriel Attal en meeting ou Dembélé qui écrabouille Arsenal? Alors ceci dit, il peut quand même faire une grosse audience à Marseille. Je pense que sur le Vieux-Port, tout le monde sera dans les bars pour suivre le meeting de Gabriel Attal.
Oh, c'est sûr.
Mon projet pour la France, c'est de poursuivre ce que le président... Oh, y a rien d'autre à la télé, là. On peut changer de chaîne.
Et but de Dembélé, Paris est champion.
Non, putain, remets Gabriel Attal, et qu'on puisse voir au moins un Parisien qui prend une branlée, quoi.
Arnaud Demanche, qu'on retrouve tout à l'heure en direct à 7h20, 8h20, dans Apolline Matin, sur RMC, RMC Story, sur l'application RMC, en podcast, quand vous voulez. L'alacrité d'Arnaud Demanche, c'est à tout moment du jour et de la nuit.
Bon, elle vient de nous donner une superbe solution conso, mais on va revenir sur la météo, et elle est belle, elle est bonne, elle s'arrange de jour
en jour. Elle s'arrange, exactement. Là, c'est la journée transition. On va vers le très très beau à partir de demain. Aujourd'hui, c'est un peu entre deux, on peut encore avoir un peu de pluie, notamment. notamment ce matin, en allant vers la Manche, vers les frontières du Nord. On gardera quelques averses au nord de la Seine cet après-midi, mais partout ailleurs, on a vraiment les éclaircies qui vont arriver, avec des températures qui remontent, ça y est là, on est vraiment bien dans les normales de saison. On aura 17 à Brest cet après-midi, 18 à Lille, 21 à Paris, 23 à Clermont-Ferrand, 24 à Lyon, Bordeaux, et il fera 25 à Toulouse, 27 à Marseille, jusqu'à 28 pour Perpignan.
Il est 5h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
100 kilos de drogue saisie, 93 interpellations, une vaste opération de lutte contre le trafic de drogue à Lyon et dans sa banlieue.
C'est la priorité absolue du nouveau préfet du Rhône qui a déployé hier environ 1000 policiers et gendarmes. Un homme violent et sans aucune empathie, c'est le portrait dressé par les proches de Guillaume B. à Digne-les-Bains. Il est jugé pour viol et acte de torture et de barbarie sur son ex-compagne. Et puis des délais qui s'allongent pour avoir rendez-vous chez le médecin, jusqu'à 42 jours d'attente pour consulter un cardiologue.
Une démonstration de force contre le trafic de drogue à Lyon et dans sa banlieue.
L'opération a duré toute la journée hier. 1000 policiers et gendarmes mobilisés, plus de 200 contrôles qui ont mené à la saisie de 100 kilos de drogue, d'armes à feu également. 93 personnes interpellées. Le nouveau préfet du Rhône fait de la lutte contre le narcotrafic sa priorité absolue. Vincent Chevalier, il a voulu montrer les muscles après une récente série de violences.
Frapper vite et frapper fort, une démonstration assumée par le nouveau préfet du Rhône, Étienne Guyot, moins de 24 heures après son arrivée.
C'est un signal fort, c'est une union sacrée contre le narcotrafic.
En ciblant des appartements nourris, en ciblant des commerces, en ciblant des secteurs. Donc c'est une opération que je voulais mener tout de suite pour manifester tout de suite la volonté de l'État de ne laisser aucun territoire de ce département hors de la République. Cette opération, elle va être amenée à se reproduire.
Fusillades, intimidations, règlements de compte ces dernières semaines, les faits de violence liés au narcotrafic se sont multipliés dans la métropole de Lyon, parmi lesquels l'incendie volontaire d'un immeuble à Décines-Charpieu il y a 10 jours, qui a coûté la vie à 3 personnes inconnues de la justice.
Les premières annulations pour Patrick Bruel, 3 de ses concerts prévus en décembre au Québec, sont annulées, annoncent les organisateurs qui évoquent le contexte actuel et l'impossibilité d'assurer la promotion. Le chanteur de 67 ans, visé par au moins 12 plaintes pour viol et agression sexuelle, 12 plaintes étudiées par la justice, lui nie toutes ces accusations.
Alors allez le voir au théâtre ou pas, allez le voir en concert ou pas, il y a des annulations au Canada. Vous auriez des places, vous feriez quoi? Vous nous le dites ce matin au 32-16, est-ce que les organisateurs de spectacles doivent renoncer à la venue de Patrick Bruel dans leur festival? C'est aussi ça fait partie des questions qu'on vous pose aujourd'hui. Vous réagissez en direct.
À Digne-les-Bains, l'ex-compagnon de Laetitia continue de plaider le consentement.
Guillaume B, qui est pourtant jugé depuis lundi pour viol et acte de torture et de barbarie sur son ex-compagne et qui encourt pour cela la prison à perpétuité. Laetitia l'accuse notamment de l'avoir forcé à se prostituer pendant 7 ans. À la barrière, Julie Brault, les proches de l'accusé ont décrit un homme violent au sentiment de toute puissance.
Oui, parmi eux, le fils aîné de l'accusé, 17 ans, se souvient des coups d'un père autoritaire et colérique qu'il préfère désormais appeler monsieur plutôt que papa. Les violences verbales aussi, des mots qui, parce qu'ils touchaient à mon intégrité, faisaient plus mal que les coups, dit-il. J'étais sous son emprise, c'est un homme à qui j'avais peur de dire non, analyse l'adolescent. Un récit similaire à celui des voisins, amis ou ex-compagnes de l'accusé, révélateur d'un mécanisme pervers, soutient maître Philippe-Henri Honegger, avocat de l'État. Laetitia, la plaignante.
Chacun est venu dire à son tour comment il avait à un moment ou à un autre vécu une situation d'emprise dans laquelle il a été enfermé par la violence et les menaces de cet homme. Donc ça vient dresser un portrait absolument terrifiant de celui qui est jugé, mais ça vient surtout étayer et confirmer ce qui a été raconté par Laetitia.
Aujourd'hui, des psychiatres vont à leur tour tenter de dresser le portrait de l'accusé, d'ores et déjà décrit dans certaines expertises comme dépourvu de tout remords ou empathie.
Julie Brault, service police-justice d'RMC. Édouard Philippe, dans le viseur du parquet national financier, un juge d'instruction va enquêter sur des soupçons de détournement de fonds publics, de favoritisme, de prise illégale d'intérêts et de concussion, c'est-à-dire malversation d'un fonctionnaire. Les soupçons portent sur une convention d'objectifs pluriannuels pour l'animation de la cité numérique du Havre, ville dont il est le maire. L'ancien Premier ministre dit prendre acte de l'ouverture d'une information judiciaire. Des délais d'attente records pour avoir rendez-vous chez le médecin et qui augmente dans près de la moitié des départements. C'est ce que révèle une étude de la Fondation Jean Jaurès avec Doctolib. Difficultés qui ont poussé l'an dernier près de 2/3 des Français à renoncer à consulter. Philippine Boulet, ça n'a jamais été aussi compliqué.
Violette souffre depuis 6 ans d'une maladie qui nécessite un suivi. Pour prendre rendez-vous avec son médecin traitant, elle ouvre l'application Doctolib.
Prendre rendez-vous au cabinet.
Sur son écran, les dates défilent.
Je suis déjà au mois de juin.
Jusqu'au premier créneau libre.
16 juin.
Presque un mois d'attente, Violette a l'habitude. Maintenant, en cas de besoin, elle se dirige vers les urgences.
Il y a un service de consultation sans rendez-vous. Après, c'est une attente d'urgence, mais on est pris le jour même.
Faute de rendez-vous assez rapide, Marwan a déjà renoncé à consulter.
J'ai travaillé en étant malade. Hein. De toute façon, t'as pas de choix. T'as pas de rendez-vous. Et tu sais que ton employeur, il a besoin d'un justificatif.
Ce ne sont pas des exceptions. Selon Doctolib, 1/3 des consultations chez un généraliste nécessite au moins 1 semaine d'attente. C'est un problème aussi pour les médecins, comme Patricia Lefebure, présidente de la Fédération des médecins de France.
De dire aux patients, je ne peux pas vous recevoir, allez aux urgences, on sait très bien que ça n'est pas une bonne solution. Ça coûte extrêmement cher, 250 € un passage aux urgences, en moyenne, entre 30 € dans une consultation médicale.
Selon elle, pour réduire les délais d'attente, il faudrait davantage inciter les jeunes médecins à s'installer dans les zones les plus en tension.
Et on vous attend au 32-16 ce matin pour témoigner sur ces déserts médicaux. Bien sûr, 3 jours niveau de temps moyen, médian pardon, d'attente pour voir un généraliste, 42 jours pour un cardiologue. On a eu 2 mois avec Aurélien en Auvergne, deux ans pour voir un dermatologue chez lui en Auvergne, Aurélien, tout à l'heure au 32-16. Et puis on va accueillir Marc après ce journal. Au 32-16, vous continuez à réagir.
Au Moyen-Orient, Donald Trump menace une nouvelle fois de frapper l'Iran si aucun accord de paix n'est trouvé. L'armée iranienne promet, elle, d'ouvrir de nouveaux fronts si les États-Unis reprennent leur attaque. Dans le sud du Liban, 19 morts tués par des frappes israéliennes hier, malgré la trêve en vigueur, trêve qui vient d'être prolongée.
Il est 5h36 sur RMC et après 22 ans d'attente, Arsenal est à nouveau champion d'Angleterre.
Les Londoniens assurés du titre à une journée de la fin du championnat, les Gunners hors de portée de leur dauphin Manchester City, qui a concédé le nul un partout contre Bournemouth hier à un sacre à 11 jours de la finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, lui aussi, vous le savez, champion de France. En tennis, Carlos Alcaraz déclare forfait pour Wimbledon fin juin, son poignet pas encore remis. Le numéro 2 mondial qui avait déjà annoncé son forfait pour Roland-Garros, alors que les qualifications battent leur plein. Porte d'Auteuil depuis lundi, Eric Salio, qualification dans une sacrée ambiance.
Oui, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Pour la petite somme de 35 €, l'attraction numéro 1, c'est le cours Suzanne Lenglen, opérationnel pendant ses qualifs. Hier, Pierre Gerber a été porté vers la victoire dans une atmosphère de Coupe.
C'est tout de suite l'ambiance de Roland-Garros et ça va durer pendant 3 semaines. On a vraiment de la chance d'avoir ce grand chelem à la maison et on en fait quelque chose de magnifique. Donc je suis assez fier de ce tournoi.
Certains fans préfèrent le cours 14 où Daniel Jade, 17 ans, va revenir ce matin une deuxième fois.
Sur que le 14, c'est quand même un cours mythique ici à Roland. C'est une sorte d'arène un petit peu où il y a vraiment beaucoup de gens. Et c'est toujours rempli.
La troisième option, c'est de s'installer sur le cours central pour assister aux entraînements des stars. Hier, Valentin a pu observer l'homme aux 24 grands chelems.
En plus, moi, j'ai jamais vu. Et Djoko, j'avoue, c'est le GOAT, quoi. Il est trop fort. Ce matin, j'ai regardé les entraînements et j'ai vu qu'il était à 17h. Bah, on aurait bien aimé avoir des places un peu plus proches, mais on est bien là. On va voir Djoko pendant 1h30, ça va être cool.
Depuis lundi, 40 000 spectateurs ont franchi les grilles de Roland-Garros et la boutique, au souvenir, ne désemplit pas.
Et puis le quintet au Croisé-la-Roche aujourd'hui à 13h55.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 9, Carambar. L'outsider, c'est le numéro 2, Joy du Carnois.
Merci beaucoup Clara Gabillet, c'était le journal. À 5h38, on va accueillir Marc qui est dans l'Eure ce matin en Normandie au 32-16. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour Marc, vous souhaitiez réagir sur les délais pour voir un médecin et vous êtes bien placé pour en parler puisque vous êtes cardiaque. On rappelle le chiffre ce matin, 42 jours pour, en moyenne pour voir un cardiologue. C'est la galère pour vous aussi ?
Mon cardiologue, c'est 6 mois pour avoir un rendez-vous.
6 mois.
6 mois, oui.
Ouais. 42 jours, c'est la moitié, c'est moins, et l'autre moitié, c'est plus, et ça peut aller très loin. 6 mois. 6 mois pour voir un cardiologue. Et, Marc, j'imagine que c'est pas des rendez-vous en urgence pour lesquels vous attendez autant.
Non, c'est des contrôles. Mmh. Et pour le médecin généraliste, bon, j'ai plus de généraliste, il a fait un AVC. Il faut plus d'un mois pour avoir un médecin. Non, sur Vernon.
Sur Vernon, ok.
Oui.
Marc, vous disiez dans votre message sur WhatsApp que du coup vous vous organisez, vous prenez vos rendez-vous, vos check-up de contrôle 1 an à l'avance.
Bah oui.
Une année sur l'autre, quoi.
Voilà, tout à fait, ouais. Et puis je veux dire aussi, c'est que les renouvellements d'ordonnances, pourquoi les faire tous les 3 mois? Moi, je les fais une fois par an.
Ah, parce que du coup, pour avoir un renouvellement d'ordonnance pour avoir vos médicaments, vous devez aller voir un médecin tous les 3 mois?
Voilà.
Oui, c'est grotesque. S'il y a 6 mois d'attente, c'est compliqué.
Voilà, je me suis mis d'accord avec mon médecin, et une fois par an, ça suffit pour un renouvellement.
Non, mais Marc, et puis ça fait de la place aussi pour ceux qui auraient besoin d'aller voir un cardiologue et de ne pas attendre 6 mois. Merci Marc de votre témoignage, c'est la réalité de cette étude d'Octolib et de la fondation Jean Jaurès sur les déserts médicaux. C'est la première fois qu'on vous a à l'antenne avec nous, Marc, non?
Oui.
Oui, bah soyez le bienvenu sur RMC. Merci d'avoir appelé.
Merci à vous. Je vous regarde tous les matins.
Soyez le bienvenu. Vous savez, quand vous voulez, vous intervenez au 3216. Vos messages WhatsApp au 0612 424 424. Les déserts médicaux. On continue d'en parler avec vous. Puis on parlera de l'état de l'hôpital public aussi à 7h40 ce matin dans Apolline Matin.
Mais avant cela, c'est bientôt l'heure de l'homme du jour avec Virginie Fulpin.
Il sait imiter Nicolas Sarkozy, mais c'est l'étiquette de macroniste qui lui colle à la peau.
Et puis des milliers de restaurants qui peinent à trouver un serveur ou un cuisinier pour le soir même. Bonjour Mao Froment.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous avez créé Nico. Ça se prononce Nico?
C'est ça, exactement.
N-E-E-K-O, une appli pour résoudre les crises de main-d'œuvre en quelques clics. On va en parler dans un tout petit instant, ça va intéresser certains de nos auditeurs. À tout de suite.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h41 sur RMC, RMC Story. Et l'homme du jour, Virginie Fulpin, c'est Emmanuel Moulin. L'ancien secrétaire général de l'Élysée a été proposé par Emmanuel Macron pour être le prochain gouverneur de la Banque de France. Les commissaires des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale doivent voter aujourd'hui.
Oui, ils ont l'avenir d'Emmanuel Moulin entre leurs mains. Il est difficile à prédire cet avenir. Il y a les pour et les contre sa nomination au poste de gouverneur de la Banque de France. On savait déjà que les Insoumis et le Rassemblement National voteraient non. Le PS les a rejoints hier. Les socialistes estiment qu'Emmanuel Moulin ne présente pas les garanties d'indépendance politique indispensables à la fonction de banquier central. Pour faire simple, trop proche d'Emmanuel Macron et du gouvernement. C'est donc le vote des Républicains qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Emmanuel Moulin a l'occasion de les convaincre ce matin. Il va être auditionné par les commissions des finances du Sénat puis de l'Assemblée avant le vote.
Alors le secteur de la banque, Emmanuel Moulin connaît bien.
La banque, l'économie, la finance, oui, son CV en est rempli. Il a commencé à la Direction Générale du Trésor à la fin des années 90. Il n'avait pas encore 30 ans. Il était passé par toutes les grandes écoles possibles, Sciences Po, l'ESSEC, l'ENA. Il a aussi été administrateur suppléant de la Banque mondiale à Washington, banquier chez Citigroup au milieu des années 2000, avant de prendre en charge les dossiers macroéconomiques et financiers auprès de la ministre de l'économie Christine Lagarde en 2007, et puis il est revenu à la banque en 2015. Plus techno et éco qu'Emmanuel Moulin, c'est assez difficile. Hein.
Et c'est aussi un habitué des hauts lieux de la République.
Il n'aime pas que l'économie, mais aussi la politique, à droite et à gauche. Enfin, d'abord à gauche. Il a grandi à Versailles, dans une famille bourgeoise, qui a voté François Mitterrand en 1981. Lui, il était plutôt adepte de Michel Rocard. Dans sa jeunesse, il rêvait de moderniser et de faire évoluer la gauche. La fougue de la jeunesse le conduit aussi à sauter dans un train de nuit en novembre 1989 pour aller assister sur place à la chute du mur de Berlin. Il avait 21 ans à l'époque et des idéaux plein la tête.
Alors Emmanuel Moulin a changé de bord politique ensuite.
Oui, quand il a commencé à travailler, Emmanuel Moulin est passé à droite jusqu'à devenir proche de Nicolas Sarkozy. Tellement proche qu'il imite très bien l'ancien président. C'est même lui qui pastiche sa voix dans le film « Neuilly, sa mère » sorti en 2009. Oui, on peut être banquier et imitateur à ses heures perdues, spécialisé dans les politiques. Hein, parce qu'il paraît qu'Emmanuel Moulin est très crédible aussi en Michel Rocard ou en Valéry Giscard d'Estaing.
Ah, c'est tout le bébé de show là, pardon.
Voilà, c'est ça, en une seule personne.
Pierre Mombard aussi, ou... pardon.
Alors, je ne l'ai pas entendu, hein, mais c'est possible. Tous ceux qui ont travaillé avec lui disent qu'il est très drôle. Hein. Drôle, puis un petit peu poissard aussi, il faut bien le dire. La crise du Covid quand il travaillait avec Bruno Le Maire à Bercy, la guerre au Moyen-Orient lors de ses derniers moments comme secrétaire général de l'Élysée. Emmanuel Moulin le dit en souriant, quand j'arrive quelque part, la crise n'est pas loin. Je suis pas sûr qu'il développe cet argument lors de son audition ce matin.
Parce que vous disiez aussi qu'il était au cabinet de Christine Lagarde en 2007.
Voilà, c'est ça, il y avait aussi 2-3 petits dossiers.
Ah ouais, voilà. On suit bien. Eh ben, on verra ce que feront les élus. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Il est 5h44.
Et je vous rappelle qu'on joue ce matin, on joue au mot caché à tout moment dans le morning. On prononce un mot qui sort de l'ordinaire. Si vous pensez l'avoir identifié, vous envoyez mot au 732-16, mot au 732-16. Et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner votre station météo connectée, Lacrosse Technologies, le leader français des données météo.
Le mot caché sur RMC
avec Lacrosse Technologies, le leader français des stations météo pour garder un temps d'avance sur la météo.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Allez, blind test.
Harry Styles.
Vous l'avez quand même, non?
Oui.
On a Harry Styles ou pas autour de la table, je sais pas.
Oui,
on a la crité, son jeu de scène, ses spectacles, ses clips. Harry Styles qui est aussi une valeur économique, une valeur sûre, abonné de record à battre, le chanteur britannique qui va enchaîner 12 concerts au mythique stade de Wembley cet été. 12, c'est deux de plus que le précédent record qui était détenu par Coldplay. Mais surtout, c'est un investissement plus que rentable. Avec cette résidence dans la capitale anglaise, Harry Styles va générer plus d'un milliard d'euros de retombées économiques, plus fort que Taylor Swift pour son passage en Angleterre, ou même Oasis pour sa tournée de retour. C'est la banque Barclays qui a fait les comptes des recettes et des retombées économiques. Hôtels, restaurants, transports, produits dérivés, chaque fan dépenserait en moyenne près de 1000 livres pour vivre l'expérience Harry Styles. C'est comme ça que la banque Barclays l'a appelé. Un peu moins de 1200 euros chacun en gros. Des fans qui vont traverser l'Europe pour assister au concert. Attention, tout le monde n'est pas conquis d'office. Certains dénoncent déjà le prix de la billetterie. Bah oui, ça va avec les chiffres que je vous donnais. Plus de 300 euros parfois pour certaines places, même en fausse. Il est 5h46, Harry Styles, ça c'est le nouveau pour le coup. Peut-être que vous êtes de ceux qui iront à Londres dépenser un peu plus de 1000 euros au total pour voir Harry Styles. En attendant, Cyril est en ligne avec nous depuis les Yvelines. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Bonjour Cyril, vous souhaitiez réagir au sujet qu'on développe ce matin, relancé par Emmanuel Macron hier, la consigne pour améliorer le recyclage.
Moi ce que je trouve lunaire, c'est que ce soit des politiques qui en parlent, quoi. Enfin, on fait une consultation maintenant pour savoir s'il faut faire du recyclage des bouteilles. Enfin, moi, j'ai grandi en Alsace et ma cousine, elle vit avec un Allemand. Ils ont vécu en Allemagne, du coup. En Allemagne, vous avez déjà les supermarchés de boissons. Moi, je comprends toujours pas qu'on n'avait pas ça en France. Et là-bas, vous pouvez carrément louer des cagettes où vous mettez vos propres
bouteilles en verre, par contre.
Non, même en plastique.
Le plastique aussi? Parce que je vois très bien, c'est au sous-sol du supermarché en Allemagne. Vous avez tous les liquides et le verre notamment. Vous prenez des grosses cagettes et vous ramenez tout ça quand c'est vide.
Ouais, puis la cagette, enfin, moi, j'ai fait ça plusieurs fois, mais on récupérait entre 15 et 20 euros facilement. Cagette, quoi.
Enfin, vous avez payé, hein, parce que c'est une consigne.
Oui, bien sûr. Mais après, c'était pas beaucoup plus cher non plus sur les prix des boissons, enfin, pour parler en France, quoi. C'était les mêmes prix.
Mais, vous seriez favorable, vous?
Ben oui, mais je sais même pas pourquoi on fait une consultation politique pour ça, quoi.
Bah, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire, hein, Cyril, la suite de cette logique-là, de ce débat-là?
Ça devrait déjà être fait, c'est même pas, il faudrait le rendre obligatoire.
Et là, l'échéance, c'est 2030 en plus, donc c'est pas non plus.
Ah oui, mais les grosses entreprises comme Carrefour, Super U et Leclerc, je comprends pas qu'ils le fassent pas déjà, en fait.
Il y en a qui, alors, Cyril, il faut être honnête, hein, moi, vous avez cité plusieurs grandes enseignes, il y en a une près de chez moi qui fait ça. Il y a déjà un truc qui récupère les bouteilles en plastique, mais alors c'est jamais la bonne, c'est jamais la couleur, c'est ceci, la taille, c'est ceci, c'est pas le plus simple encore. Mais il faut le mettre en place, quoi, Cyril.
Il y a des machines pour ça, en fait. Ben, je sais pas, les autres pays arrivent à le faire, pourquoi nous, on n'y arrive pas? Enfin, je comprends pas. C'est comme le gaspillage alimentaire. Mais c'est tout bête à mettre en place, en fait. Enfin,
et pour vous, ça devrait être la base, en tout cas. Mais je vois ce que vous voulez dire, Cyril. Je comprenais pas au début ce que disait Cyril. Il disait pourquoi on fait ça. Alors, c'est surtout que ça devrait déjà être fait, nous dit Cyril. La consigne pour ou contre, hein, tout simplement, vous seriez prêt à passer à ce système-là? Est-ce que vous joueriez le jeu? On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp RMC au 06-12-424-424. Il est 5h48. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi.
Et ses premiers concerts de Patrick Bruel annulés au Canada après la trentaine d'accusations de violence sexuelle qui pèsent désormais contre le chanteur. À un an de la présidentielle, Édouard Philippe dans le viseur du parquet national financier. Il est soupçonné de détournement de fonds publics. Un juge d'instruction va enquêter sur le maire du Havre. Et puis c'est l'info de la nuit. Donald Trump va bien participer le mois prochain au sommet du G7 en France. La Maison-Blanche l'a confirmé. Sommet du G7 dont la date a été décalée pour que le président américain puisse fêter ses 80 ans à la Maison-Blanche.
Il est 5h49.
RMC, à votre service.
Ah, de service, il va être question justement ce matin. La restauration qui manque de bras, on en parle souvent, tout le monde le sait désormais. Mais alors, trouver un serveur ou un cuisinier pour le soir même, c'est encore plus galère.
Bonjour Mao Froment.
Bonjour.
Vous avez cofondé avec votre frère Rémi l'application Nico, N2EKO, qui met donc en relation les restaurateurs et les travailleurs dans l'urgence en seulement quelques clics. D'abord, d'où vous est venue l'idée ?
Ben, merci déjà de m'accueillir sur ce plateau. Nico, c'est venu d'un constat personnel. Mon frère travaillait dans la brasserie, dans une brasserie à Paris, et a rencontré des difficultés justement de sous-staffing. Ils étaient deux serveurs pour un service complet, c'était compliqué. Le patron passait son temps à essayer de recruter et finalement il n'y arrivait pas. Et de l'autre côté, c'est aussi la complémentarité des revenus, c'est de pouvoir trouver sur ses jours off un autre moyen de se faire un peu d'argent dans un autre restaurant.
En plus de son job habituel, voilà. Comment ça marche pour le restaurateur qui nous écoute là ce matin?
Eh ben, c'est très simple. On peut partir peut-être pour les auditeurs sur un exemple très simple, mise en abîme. Vous êtes un restaurateur, on est samedi soir, vous avez un service complet, il est 18h, votre serveur vous a planté, vous téléchargez l'application Nico, vous inscrivez, vous générez une mission, ça dure 60 secondes en top chrono.
De générer une mission, voilà. Serveur pour ce soir dans l'arrondissement de Paris.
Exactement. Vous payez juste la génération de la mission, c'est 29€ hors taxes, hors partenariat. Et après vous envoyez en fait l'annonce sur nos fonctionnalités. L'idée, c'est qu'en fait, ça va interroger du coup le périmètre qu'il y a autour de chez vous. C'est jusqu'à max 30 km. L'idée, c'est pas de vous envoyer quelqu'un qui arriverait peut-être dans 4 heures.
Et à la fin du service, quoi.
C'est ça. Et de l'autre côté, en fait, on a un travailleur qui va se mettre en ligne sur des compétences. Donc, s'il coche serveur, c'est des compétences de bon sens. Donc, typiquement, porter un plateau, porter 3 assiettes, service du vin à table, anglais en salle, des choses, de bon sens. Et on a les métiers, donc, de bar, service, plonge et cuisine. Qu'on couvre aujourd'hui.
Et au total, il y a combien de travailleurs sur toute la France ?
Alors aujourd'hui, du coup, notre laboratoire, c'est les Pyrénées-Orientales. Moi, je viens du coup d'Argelès-sur-Mer. Mmh. C'est notre laboratoire là-bas. D'accord. Donc on a 350 travailleurs en ligne qui attendent des missions. On a 2 restaurants qui nous ont fait confiance aujourd'hui sur Perpignan. Je pense au Claude Elie, dont le directeur général, le président et l'ancien président de la French Tech de Perpignan. Et on a notre première mission qui démarre là à 10h, donc dans les Pyrénées.
On peut être, je me mets à la place du serveur, du cuisinier, y a un côté ubérisé aussi. Il pourrait très bien ne pas avoir de boulot et simplement attendre que les missions tombent depuis votre appli.
Alors, c'est pas l'objectif, parce qu'on n'en vit pas. L'idée, c'est vraiment de combler des revenus. Jamais on vivra de ça. Hein. C'est pour combler des revenus, de trouver une mission de temps à autre.
Et puis pour dépanner de l'autre côté.
Par contre, ça peut créer une relation entre l'employeur et le salarié. Ça peut matcher et l'employeur peut décider de recruter derrière le serveur, le gérant de bar. Ou que
complètement. C'est vrai que c'est, vous anticipez, parce que c'est vrai que c'est une externalité positive aussi. En fait, ça peut répondre à une urgence, Nico, mais c'est aussi, dans bien des cas, le moyen de tester quelqu'un. Parce que finalement, les process sont très longs. Aujourd'hui, un restaurateur va passer soit par son réseau, mais c'est pas une solution pérenne sur le temps long. Et puis, autrement, c'est de l'agence d'intérim qui, en fait, est un troisième intermédiaire qui intervient sur la commission.
C'est quoi la différence avec une agence d'intérim?
Eh bien, c'est que nous, on n'est pas intermédiaire. On est juste mis en relation. On fait rencontrer 2 personnes. On gère pas la partie contrat, ça nous regarde pas. Nous vraiment, on connecte en fait quelqu'un de disponible. En fait, c'est ça. On met en avant la disponibilité.
Pas vous qui embauchez le salarié.
Alors justement, c'est quel type de contrat comme ça pour une mission?
C'est le restaurateur. Ça va être des contrats d'extra. C'est ce qu'il a l'habitude de faire avec
ses
extras.
C'est lui qui fixe les règles du jeu.
Exactement.
Vous, c'est juste le match.
C'est ça. Exactement.
Dans la rencontre, en fait.
Voilà. Et dans l'application, il va mettre son créneau, quand il peut programmer à une semaine. Il va rentrer un taux horaire indicatif, mais enfin, je veux dire, ça le regarde qu'à lui. Et la partie commentaire, s'il veut rajouter une petite partie commentaire, chemise blanche, pantalon noir, quelque chose comme ça.
Je pense qu'on en entendra parler, parce qu'on a régulièrement en tout cas le débat avec les restaurateurs, les difficultés de recrutement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. D'autres métiers peut-être en vue?
Eh bien, aujourd'hui, on est sur la restauration. Alors, l'idée, c'est qu'il y a tellement de secteurs en tension. Je pense à l'hôtellerie, je pense au bâtiment, à la logistique. Alors, c'est des réalités qui sont tout autres. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de se concentrer sur la restauration. Aujourd'hui, on est accompagné par la BPI, qu'on remercie, par Impact, qui est notre pépinière entreprise. On a la Banque Populaire qui nous suit également, Réseau Initiative France.
Donc vous allez vous développer.
Voilà, c'est ça. L'idée, elle est là.
Merci
mille fois.
Merci à vous.
On rappelle que vous avez cofondé l'application Nico, qui met en relation restaurateurs et travailleurs. C'est un peu le Tinder des restaurateurs.
Il est 5h54 sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Nicolas Canteloup, dans un instant sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Et à tout moment en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes. Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
On le retrouve à 8h45 pour Face à Canteloup. Tout de suite, on se met déjà dans l'ambiance avec le meilleur de Nicolas Canteloup.
Laurent Nunez était mon invité dans le face-à-face. Éric Ciotti, vous souhaitiez réagir, bonjour.
Oui. Bonjour Madame de Malherbe. Oui. Écoutez, j'ai entendu Laurent Nunez parler de délinquance des jeunes. Alors, c'est vrai qu'à Nice, il y a eu une petite fusillade à balles réelles, légèrement mortelle, je vous l'accorde, avec des petites kalachnikovs. D'accord. Petite. Bon, douce, oui, mais pour le reste, en deux mois, j'en parlais à mon ami niçois, bah, Monsieur Marchal. En deux mois, il peut en témoigner, j'ai tout éradiqué. Le protoxyde d'azote, il n'y en a plus à Nice. Monsieur Marchal a cherché, il ne trouve pas. Bon, il y a peut-être encore quelques mamies qui inhalent, c'est vrai, de la ventoline. Ah. Mais au niveau des rodéos urbains, je crois qu'on a eu quoi? En deux mois, on a eu un rodéo urbain. C'est Madame Castagnetti et Madame Marchal qui ont fait un concours de roue arrière avec leur fauteuil roulant. Et c'est Madame Marchal qui a gagné en tenant sur 22 cm. Ça n'a pas non plus cherché bien loin.
Bien sûr. Laurent Nunez souhaite aussi limiter les rêves partis.
Mais ça, c'est pareil. Au début, nous avons agi. Nous avons instauré un couvre-feu à 18h30, mais c'était inefficace.
18h30?
Mais oui, parce qu'à Nice, un couvre-feu à 18h30, ça sert à rien. Ils sont déjà tous couchés. Du coup, on a fait un couvre-feu à 16h30.
Ah oui.
Mais là, c'est pareil, il n'y a personne dans les rues. Ils regardent tous affaires conclues.
Ah.
Voilà. Du coup, on l'a mis à 14h30, mais à 14h30, ils font la sieste.
Ah oui.
Alors, du coup, on l'a mis à midi moins le quart, mais ils mangent déjà. Alors du coup on s'est dit ben on va être radical, on va le mettre à 7h du matin. Mais ça sert à rien, ils regardent tout ça pour les matins. Je suis corporette. Bon, du coup je vous cache pas qu'on a un peu abandonné l'idée.
Ah oui,
du coup
vous avez abandonné l'idée. Bon, comme à Marseille vous avez la DZ Mafia à Nice, hein.
Oui, enfin, c'est une... Comment vous dire? C'est une filiale de la DZ de Mafia. Mmh. Voilà. Mais qui trafique beaucoup dans nos quartiers. Les bancs publics, on le voit, sont pris d'assaut par des hordes d'octogénaires qui s'échangent sous le manteau, vous savez quoi? Des programmes télé.
Ah oui.
C'est la TéléZ Mafia.
Voilà. Eh bien, bon courage, monsieur.
Merci Nicolas, c'était Face à Canteloup et on vous retrouve tout à l'heure à 8h50 dans Apolline Matin.